Bienvenue sur la planète et sa banlieue. Allez, dans l'ordre, le journal d'abord, celui d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mardi commence avec nos conversations sur la place publique.
Une faille dans la messagerie WhatsApp, elle nous promet des conversations cryptées, sécurisées, mais des pirates ont réussi à s'immiscer dans certains de nos échanges privés. Eux ont l'habitude d'opérer dans le plus grand secret. Les deux militaires, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, tués lors de la libération des otages au Burkina, ont été élevés au rang de héros nationaux aujourd'hui lors de l'hommage rendu par le président aux Invalides. Des médecins pas vaccinés contre la rougeole ont contaminé des malades d'un CHU à La Réunion. L'ARS a dû vacciner une centaine de personnes pour contenir la propagation de la maladie. Et nous irons à Cannes à un peu plus d'une heure de l'ouverture du festival. Ouverture avec le film de Jim Jarmusch ce soir, The Dead Don't Die, avec un casting mortel, Bill Murray en tête. Le soleil superstar demain encore, Sébastien Léas nous le confirmera dans la météo à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde, en Algérie ce soir, les Algériens continuent de manifester, pas question de lâcher la révolution qui a commencé le 22 février dernier. Les rues sont encore pleines le vendredi et dans le même temps, des arrestations qui se multiplient. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit surtout sur les jours, les mois à venir avant un scrutin du 4 juillet dont la rue ne veut pas? C'est trop tôt, dit-elle, et on voit ça ensemble. Ce soir, le reportage nous emmène au Mexique où un restaurant a ouvert pour employer ceux qui ont été renvoyés des États-Unis. C'est un restaurant américain. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on parle du handicap. Les handicapés étaient plusieurs centaines à manifester une fois de plus dans Paris aujourd'hui au terme de 8 jours d'action. Déçus 2 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, qui avait promis de faire du handicap une vraie cause nationale, l'accession au travail, l'accession au transport, l'accession à l'éducation. On en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Nos conversations donc les plus privées, piratées.
Et pourtant la messagerie WhatsApp a bâti son succès mondial sur des gages en matière de sécurité, sur la promesse de crypter nos échanges. 1,5 milliard de personnes l'utilisent aujourd'hui de Paris à New York en passant par Jakarta et Lilongwe. Mais les garanties n'ont pas suffi. Julie Pietri, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez nous expliquer. Le Financial Times, le journal américain, révèle aujourd'hui qu'une faille a permis à des hackers d'insérer un logiciel malveillant sur des téléphones.
Il suffit d'un appel entrant, un simple appel pour que le virus s'introduise dans le téléphone. Il est ensuite capable d'espionner toutes les données du mobile. Loïc Guézo, expert au Clusif, Club de la Sécurité de l'Information français.
Ça veut dire pouvoir accéder à l'ensemble des informations qui sont présentes sur l'équipement, donc les messages, les photos, tout ce qui est stocké sur le téléphone, et puis détourner les ressources du téléphone, donc par exemple le micro et la caméra, pour le bénéfice de l'attaquant, donc espionner en direct le propriétaire.
Combien de personnes ont été impactées? Peu probablement en fait, car l'entreprise soupçonnée d'être derrière cette intrusion travaille avec des gouvernements, dit WhatsApp. Le Financial Times citant même NSO, groupe israélien très secret, qui vend des logiciels espions aux États.
NSO Group n'est pas à proprement parler ce qu'on appelle un pirate informatique. C'est une société qui a pignon sur rue et qui rend des services d'intrusion informatique à ses clients qui sont des États. Il est certain que les appels entrants qui servaient à installer le dispositif d'espionnage étaient extrêmement ciblés et très peu nombreux. Mais aujourd'hui, puisque cette vulnérabilité est rendue publique, on peut s'attendre à ce que des criminels traditionnels qui ont des objectifs de faire de l'argent vont l'utiliser pour tenter de pirater les utilisateurs de WhatsApp.
WhatsApp dit avoir aujourd'hui trouvé la parade, mais pour se protéger, il faut mettre à jour rapidement l'application.
Merci beaucoup Julie Pietri.
La France d'Emmanuel Macron, Amélie, a besoin de héros.
Elle a rendu hommage aujourd'hui à 2 militaires des commandos marines morts au cours de la libération des otages enlevés au Bénin, retrouvés au Burkina Faso voisin. Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans. Ils appartenaient au commando Uber, l'élite de l'élite militaire. Hommage d'abord d'Emmanuel Macron dans la cour des Invalides à Paris ce matin, face aux 2 cercueils recouverts de drapeaux tricolores.
Et notre pays sent bien, notre pays sait bien, dans ses profondeurs, que votre exemple nous sauve tous, car il nous maintient à la hauteur de nous-mêmes, de ce que nous avons à être. Oui, une nation n'est libre et forte que par la fraternité et la solidarité qui l'unit. Une nation n'est libre et forte que d'avoir des héros dont elle doit se montrer digne en s'élevant à leur hauteur et en restant soudée. Tel est le sens profond de votre combat.
Hommage d'Emmanuel Macron, les 2 militaires ont été faits chevaliers d'honneur à titre posthume. Hommage aussi d'anonymes venus sur le pont Alexandre III en face des Invalides.
Ce sont deux jeunes, ils avaient tout pour eux. Je trouve qu'ils sont morts inutilement, même si c'était leur devoir.
Je citerai Albert Camus, je pense qu'il souhaitait que les gens n'essayent pas de refaire le monde, mais essayent plutôt d'empêcher qu'il ne se défasse. Ces gens-là essayent que notre monde ne se défasse pas. Ce sont des gens qui se battent en silence pour nous.
Il y a eu beaucoup d'émotions au cours de cette cérémonie.
Énormément d'émotions, oui, oui. Les gens étaient vraiment tristes de voir partir ces deux jeunes gens en pleine vie. Enfin bon, c'est des destins brisés.
Des témoignages au micro de Yann Gallick. Et le troisième acte, cet après-midi, députés et sénateurs ont observé un moment de recueillement en silence et salué la mémoire et le courage des deux militaires. Les obsèques d'Alain Bertoncello auront lieu samedi chez lui en Haute-Savoie, celle de Cédric Pierrepont à l'Armor-Plage dans le Morbihan. Le Burkina Faso où ils ont été tués, région dangereuse et gangrénée par le terrorisme, il fallait une preuve de plus. Quatre catholiques ont été tués hier lors d'une procession religieuse dans le nord du pays. La veille, une église avait déjà été attaquée, attaque attribuée à des djihadistes. À l'étranger encore, un couvre-feu de nouveau mis en place au Sri Lanka. Le pays est miné par les violences entre chrétiens et musulmans depuis les attentats meurtriers de Pâques le 21 avril dernier, quand des églises ont été attaquées, faisant 258 morts. Des émeutes contre des musulmans ont tué 3 personnes hier. Les autorités ont bloqué les réseaux sociaux pour éviter la diffusion de messages de haine. Des attaques de drones, cette fois en Arabie Saoudite, contre des installations pétrolières. Le conflit au Yémen est en train de s'étendre hors des frontières du pays, semble-t-il. 2 jours après des actes de sabotage sur des navires, le royaume saoudien en première ligne au Yémen contre les rebelles chiites houthis est désormais visé sur son sol. Le porte-parole des houthis a revendiqué ces attaques de drones. La colonisation des territoires palestiniens par Israël en chiffres. Depuis que le premier ministre Benjamin Netanyahou est au pouvoir, depuis 10 ans donc, 20 000 logements ont été construits par l'État hébreu en Cisjordanie, rapporte une ONG israélienne opposée à la colonisation, par ailleurs illégale au regard du droit international. Elle affirme, cette ONG, que la poursuite de la confiscation des terres aux Palestiniens complique le règlement du conflit au Proche-Orient au moment où les Américains s'apprêtent à présenter un plan de paix. Le Vatican contre Matteo Salvini. La brouille s'envenime après le geste d'un aumônier du pape François en faveur de squatteurs pauvres à Rome. Le cardinal est devenu la nouvelle cible du chef de la Ligue d'extrême droite après avoir rétabli l'électricité dans l'immeuble abritant environ 150 familles. Raillerie du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini n'en est pas à sa première critique contre le Vatican. C'est la correspondance à Rome de Mathilde Imberti.
L'image, certes, n'a rien de banal. Un monseigneur qui de lui-même va briser les scellés de la police dans un bâtiment occupé du centre de Rome pour rétablir l'électricité à 150 familles qui ne payent pas leurs factures. On l'appelle le Robin des Bois du Vatican. Le pape François lui a confié la charge d'aumônier. C'est lui, par exemple, qui distribue des couvertures aux sans-abri de la place Saint-Pierre. Dans le cas précis, les impayés s'élevaient à 300 000 euros. Qu'importe, j'assume les conséquences, a déclaré monseigneur Krajowski. Geste d'humanité pour certains, geste incompréhensible pour le chef des policiers, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini.
Soutenir une occupation illégale, cela envoie toujours un mauvais signal. Chacun fait ce qu'il croit bon, mais moi je suis ministre de l'Intérieur, je garantis l'ordre et le respect des règles. Si quelqu'un au Vatican veut bien régler les factures de tous les Italiens, alors qu'ils nous donnent leurs coordonnées bancaires, je les transmettrai à qui de droit. Dans ce pays, des tas de gens ont du mal à payer leurs factures.
Une confrontation à distance entre Matteo Salvini et le Vatican, le pape François d'ailleurs n'a toujours pas invité le turbulent ministre de l'Intérieur italien à quasiment un an de son arrivée au pouvoir. Une prise de distance qui ne passe pas inaperçue, même si le pape, fin politique, se garde bien de nommer le patron de la Ligue lorsqu'il critique les politiques de fermeture à l'égard des étrangers en Europe. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
L'Italie où Auchan poursuit sa grande braderie. Le distributeur français vend quasiment tous ses magasins transalpins. Cela représente environ 1600 hyper, supermarchés et épiceries de proximité. Le mois dernier, le distributeur appartenant à la famille Mullier a déjà annoncé la cession de 21 sites en France. Cela va toucher entre 700 et 800 salariés.
18h09 sur France Inter. La confiance au cœur du projet sur l'école du ministre Jean-Michel Blanquer.
Mais beaucoup de défiance. C'est l'accueil fait par les parents d'élèves et les professeurs au projet de loi, dont le Sénat débute l'examen aujourd'hui. La majorité de droite au Palais du Luxembourg a bien l'intention de réécrire la version déjà votée à l'Assemblée nationale et de faire la leçon au gouvernement. Polémique d'abord sur le regroupement entre collège et école dans un nouveau type d'établissement des savoirs fondamentaux. Bonsoir Sonia Princé.
Bonsoir.
Polémique aussi dès l'article 1er imposant aux enseignants un devoir d'exemplarité.
Oui, les sénateurs examinent en ce moment cet article 1 que certains souhaitent supprimer. On ne peut pas exiger l'exemplarité dans un tel climat de défiance, comme l'a dit le socialiste David Assouline.
Pour la confiance, si ça commence par une défiance sur les enseignants dans cet article 1, il y a un problème. Pour qu'on respecte les professeurs comme tous les fonctionnaires, il faut arrêter de dénigrer la fonction publique. Il faut arrêter de l'affaiblir. Parce que ce qui pèse sur l'autorité des enseignants, c'est que la parole politique ne les valorise pas, n'arrête pas de dire que dans l'école publique, on fait moins bien que dans l'école privée. Et je l'ai encore entendu à droite dans une intervention tout à l'heure.
Le ministre a répondu que cet article 1 ne visait en aucun cas à museler les professeurs. Jean-Michel Blanquer est longuement revenu sur ses intentions et a dénoncé les mensonges sur sa loi.
C'est tout à fait juste de dire que nous sommes dans une société de la défiance, nous sommes dans une société du soupçon, et chacun doit faire son introspection pour savoir s'il contribue à la logique de confiance ou à la logique de soupçon. La seule requête que j'aurai vis-à-vis de vous tous, quels que soient les bancs auxquels vous appartenez, c'est tout simplement de penser que les intentions qui sont derrière cette loi sont tout simplement les intentions affichées.
Et le ministre a aussi l'intention, il l'a dit, d'accepter des amendements de réécriture de l'article sur les regroupements école-collège.
Sonia Princé et le projet de loi Blanquer, la copie entre les mains des sénateurs, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Quand ce sont des médecins qui propagent la rougeole, à La Réunion, deux praticiens du CHU de Belle-Pierre à Saint-Denis n'étaient pas vaccinés. Ils ont contaminé 6 personnes et mis en danger tout l'hôpital. L'Agence régionale de santé a mené l'enquête, difficile pour remonter jusqu'aux médecins non vaccinés. L'ARS a également administré des vaccins à une centaine de personnes en 2 jours par précaution. Les précisions du docteur François Chiez, le directeur de la sécurité sanitaire à l'ARS Océan Indien.
L'épidémie de rougeole à La Réunion a commencé fin décembre. Aujourd'hui, nous sommes à 48 cas de rougeole. Il faut bien voir qu'on est dans une zone où on est en zone d'épidémie. Vous avez plus de 130 000 cas à Madagascar de rougeole, 1 500 cas à Maurice, il y en a en métropole. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette personne a contaminé 2 soignants qui, eux-mêmes, peuvent avoir contaminé un certain nombre d'autres patients. Au niveau du CHU, près de 400 soignants ont été rappelés pour vérifier effectivement leur statut vaccinal. En parallèle, on a près de 500 personnes qui ont été tracées. Donc, in fine, il y a une couverture de près de 1000 personnes qui ont eu un rattrapage quand c'était nécessaire vaccinal ou une surveillance et une constatation qu'ils avaient effectivement une couverture vaccinale suffisante.
Le directeur de la sécurité sanitaire de l'Agence régionale de santé à La Réunion, il répondait à Michel Berti de Réunion Première.
Allez, on termine ce journal Amélie à Cannes, c'est l'ouverture du festival ce soir.
Avec des robes de gala, des smokings, mais aussi des zombies sur le tapis rouge ce soir. Mais des zombies très glamour, hein. Jim Jarmusch fait l'ouverture avec la projection de son film The Dead Don't Die, les morts ne meurent pas. Un casting 5 étoiles, Iggy Pop, Tilda Swinton, Adam Driver, Chloé Sevigny et Bill Murray, pour votre plus grand plaisir, Eva Bétan, bonsoir.
Bonsoir.
En direct alors, de Cannes. Ouais, Bill Murray, oui. Votre chouchou, et il joue pas un mort-vivant, lui, il joue un policier, non. Eva, hein, c'est ça.
Oui, alors ils sont deux. Hein. Leur mission n'est pas facile, c'est de contrer des zombies dévoreurs d'entrailles. D'autant que le duo de policiers de cette petite ville, joué donc par Adam Driver et Bill Murray, n'a pas, et c'est un euphémisme, le profil pour faire des super flics de séries télé. Ils sont un peu lents, on va dire, mais il y a en revanche tout ce qu'il faut pour créer un tandem comique. Alors, comment on crée un tandem ? C'est pas si évident que ça, on demande à Bill Murray, j'aurais pas pensé qu'il fallait être bon en maths.
C'est une question de timing et de ton. Il faut aussi que votre voix vienne de l'intérieur de vous, là où se trouve la vérité. Si vous dites les mots comme il faut, et sincèrement, c'est mathématique, c'est drôle. Adam et moi sommes différents, mais nous comprenons les maths et cette voix de l'intérieur.
Bill Murray est plus qu'un super acteur, Bill Murray est culte. Sa dégaine, sa solitude, sa tristesse, son humour. Il tourne avec des cinéastes classe, Sofia Coppola, Lost in Translation, Wes Anderson et Jim Jarmusch. 4 films ensemble dont celui-ci qui est très drôle. Mais quand on lui demande leur point commun, ce qu'il élit Jarmusch et lui, voici ce qu'il répond.
Il est doué pour la souffrance. Quand on accepte le fait que la souffrance fait partie de notre destinée d'humain, on en sort renforcé. Je crois qu'il a vu cela en moi. Je ne suis pas sûr qu'il trouve que je suis un bon acteur ou même un type bien, mais il a vu que j'avais la faculté de souffrir et que nous partagions cela.
Voilà, ils vont monter les marches touches. Ce sera un casting rock et humain.
Merci beaucoup Eva Bettan sur la croisette pour nous faire vivre tout le Festival de Cannes jusqu'à la Palme d'Or le 25 mai.
Voilà, attention à vos entrailles Eva quand même, de ce que j'ai cru comprendre. Allez, Amélie, vous revenez tout à l'heure dans Un jour dans le monde.
Oui, sous les radars ce soir, un pasteur américain interdit d'entrer en Irlande à cause de ses prêches homophobes. La Somalie condamne pour la première fois des criminels grâce à des preuves ADN. Et puis en Suisse, une jeune admiratrice de Greta Thunberg préfère à la grève de l'école une grève silencieuse pour le climat.
Allez, on voit ça autour de 18h37. Ce soir, nous sommes aussi en Algérie pour faire le point sur le mouvement qui est né en février, les arrestations récentes, le ramadan, les manifestations qui continuent aussi. Nous allons également au Mexique avec les expulsés des États-Unis. Et puis le téléphone sonne, le standard est ouvert, allez-y. On parle d'accès au travail, d'accès au transport, d'accès à l'école, d'accès au logement des personnes handicapées qui sont venues dire leur déception après 2 ans d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Paris. Pourquoi sommes-nous encore à la traîne? En quoi le sommes-nous réellement? Est-ce que quand même des progrès ont été faits? Dans quel domaine? Être handicapé en France, qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien? On attend vos appels au 01 45 24 7000.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léas, qu'est-ce que c'est que ces averses qui arrivent par le sud-est?
Oui, des averses isolées se sont formées cet après-midi et ce soir et cette nuit. L'activité va être de plus en plus marquée entre les Alpes du Sud et la Corse. Généralement cantonnée au relief, ces averses pourront aussi déborder vers le littoral cette nuit, notamment la Côte d'Azur, ce qui nous promet une première nuit bien arrosée du côté de Cannes. En montagne, on va aussi voir apparaître la neige à assez basse altitude, des 900 mètres sur la Corse, 1300 mètres sur le sud des Alpes. Et puis cette instabilité va persister encore demain matin avant de progressivement s'atténuer, laissant place aux éclaircies de plus en plus larges l'après-midi. Sur l'est du pays, le programme est assez simple et c'est à nouveau le soleil qui va briller sans partage dans un ciel quasiment tout bleu. A noter aussi que le vent va se calmer, même si on gardera un mistral assez sensible entre le delta du Rhône et la région lyonnaise.
Avec des températures qui baissent.
Oui, alors cet après-midi, on a eu une belle douceur. Il a fait 26 degrés du côté de Béziers, Narbonne ou encore aux Arcs sur Argent dans le Var. Et demain, les maximales vont perdre quelques degrés dans le sud, mais resteront stationnaires dans le nord. L'après-midi, il fera 15 degrés à Nancy, 16 degrés pour Besançon et Ajaccio, 17 degrés à Caen et à Nice. On ira jusqu'à 18 degrés pour Paris, Lille et Lyon, 21 degrés à Nîmes, Brest et Cognac et 23 degrés pour Toulouse.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup, à tout à l'heure après 19h.